de fou. Retrouvez 16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse tous les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend et à une période de l'année, ça rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Assalamu alaikum, pour souhaiter une bonne et fructueuse journée de grandes prières pour nos amis auditeurs et auditrices musulmans. C'est vendredi, journée de grandes prières. Nous leur souhaitons donc une bonne Jumma Barakat. Et tout en n'oublions pas que nous-mêmes et nos co-religionnaires, nous sommes en plein parcours du carême. Et encore une trentaine de jours. Et nous allons arriver à Pâques, prions que notre foi soit en conséquence consolidée. Vendredi 10 mars 2023, il sont 11h, nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur Canal FM, sur les médias partenaires, j'ai nommé Radio Courtoisie depuis Dapan, Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix, La Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Nohoi ici, mais également dans le monde entier, tous ces canaux et autres médias numériques qui nous relaient auprès de vous. En fait, ceux qui réalisent l'émission, c'est Datevi Thomas avec sa barbichette et Gérard Kodjo Akucha. Cette semaine, l'actualité a beaucoup porté sur la célébration de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Nous allons en faire le bilan des célébrations ici au Togo. Et nous avons vu également les députés opérer leur première session ordinaire au titre de l'année 2023. Nous allons y revenir. Et la semaine a rimé également avec la problématique des défis de la liberté d'expression et de presse, avec toute la polémique qui porte sur notre confrère et ami Ferdinand Vincent a été porté disparu, dont nous avons quand même quelques signes depuis quelques heures qui nous rassurent, mais le défi reste actuel. Et puis il y a quelques jours, c'était la journée africaine de l'alimentation scolaire. Nous allons en parler également avec le point d'orgue, les cantines scolaires. Voilà le menu du Club de la Presse. Et nous savons tous que nous démarrons toujours l'émission par une pensée du jour. Hein, ainsi, nous jouons aux apprentis philosophes. Et aujourd'hui, c'est William Sinclair qui a écrit « Sois optimiste ». Peu importe ta situation, mais n'ignore pas la réalité. Encore une fois, sois optimiste. Peu importe ta situation, mais n'ignore pas la réalité. Nous nous sommes lancés un défi lundi dernier en vous promettant que nous recevrions une femme tous les jours de cette semaine. C'est la façon pour le Club de la Presse de s'associer à la Journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Nous y avons tenu lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, nous bouclons la boucle avec une dame. Et si Dieu est avec nous, ce dont nous ne doutons pas, nous pourrions avoir bientôt une deuxième dame qui va nous rejoindre. Eh bien, notre invitée, c'est une dame. elle a été dans sa, elle a été juriste, elle est juriste hein, de profession. Elle a étudié le droit en France. Elle a travaillé dans les institutions bancaires au Sénégal et au Togo. C'est une cadre de banque à la retraite. Elle a été mère, épouse et grand-mère, mais elle a également beaucoup d'engagements sociaux ou sociétaux, si vous permettez. C'est Madame Adjoa, elle est née lundi comme moi. Vedovi, elle est venue entre deux jumeaux. Chantal Trenou, Madame Trenou, bonjour. Merci de nous aider hein, à boucler cette boucle, de recevoir une femme au studio cette semaine. Voilà la dame qui est avec nous, en attendant une deuxième, pourquoi pas. Et les confrères, il faut parler du loup pour voir sa queue, ou plutôt il faut annoncer la queue, la queue pour que le loup, ou plutôt la louve, arrive dans ce studio. Mais je peux rassurer et les techniciens, et Germain et Thierry, que cette louve ne va pas vous dévorer. C'est une mère, une maman qui est avec nous. Madame Eleonore Mazalo Katanga, bonjour.
Bonjour, Sasugam.
Vous êtes une louve, pas pour dévorer, mais plutôt une mère de famille.
Merci.
En votre qualité de directrice de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, vous êtes coutumière de ce studio, mais nous vous invitons surtout aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la journée du 1er mars. C'était la journée africaine de l'alimentation scolaire. Vous êtes allée dans un village profond dans le canton de Gapé.
Yatiko.
Merci d'être à nos côtés pour nous rappeler la célébration de cette journée et également la problématique de l'alimentation scolaire, notamment les cantines. Deux dames, deux grandes dames, je ne dirais pas deux petits messieurs. Germain et Sarah Napoli, bonjour.
Bonjour Sas et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
Si seulement tu pouvais garder le décibel jusqu'à la fin de l'émission.
Oui, c'est promis parce que là, toute la semaine...
C'est promis. Oui. Et ce qui est promis devient une dette.
Oui, j'ai pris un petit déjeuner avant de venir.
Déjeuner, la pâte, le foufou, bien le com.
Non, je garde ça pour moi. Okay. Je ne vais pas faire de promo.
Thierry Kwame Afanoukoué, bonjour.
Bonjour Sas et bonjour à toutes et à tous. Je profite de l'occasion pour saluer les gens de Puy, de Tchélié, de Assommé et de Vli. Et voilà.
Merci pour ne pas dire que Puy, c'est ton village.
Tout à fait.
Et que Puy, c'est à quelques kilomètres de Haoutoué.
Oui.
Un
village au bord du lac.
Et puis Thierry, on peut également saluer hein, ceux qui nous écoutent à Nyonokopé.
Tout à fait.
À Nyonokopé qui a vu naître notre confrère et ami Peter Sassou Dougbé.
Oui.
Lui qui est orphelin de son papa. Le papa dont les obsèques auront lieu ce vendredi et demain samedi.
Tout à fait.
Vous souhaitez beaucoup de courage à Peter Sassou
Dougbé. Voilà mes condoléances à notre grand frère Peter Sassou Dougbé.
Et lui rappeler qu'un homme ne pleure pas en public au Togo.
Tout à fait. Mais on a vu un homme pleurer en direct dans ce pays.
Là, tu parles passé composé.
Ah oui.
Mais je parle de Peter au présent. Eh bien, rapidement, revenir. La journée internationale de lutte pour les droits de la femme, et avant d'en venir progressivement à nos chères dames invitées, pour dire juste que, comme l'écrit, avant le 8 mars, nous sommes le 10 mars, et le 10 mars, c'est la journée internationale des femmes juges. C'est le confrère L'Union qui nous le rappelle. Le 10 mars, journée internationale des femmes juges, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Women in Justice, Women for Justice. C'est afin de promouvoir la participation pleine et égale des femmes à tous les niveaux du système judiciaire. Avec ce constat que, au Togo, relativement peu de femmes occupent des fonctions de juge, à tous les niveaux de la magistrature et en particulier dans la haute magistrature. Mesdames les juges, notamment les femmes, c'est votre journée et le Club de la Presse vous la souhaite pleine et fructueuse. Nous continuons donc avec la célébration de la journée du 8 mars avec ce que nous rappelle le Canard indépendant. L'apothéose de la célébration officielle de cette journée a eu lieu à Cara. Et autre journal qui nous le rappelle, c'est Miroir Info, qui nous le rappelle à la page 5, à savoir que la célébration, l'apothéose de la célébration officielle a eu lieu au palais des congrès de Cara. Et c'était, cette célébration a consisté à mettre en avant les avancées en matière de droits des femmes, mais également de souligner les défis qui restent à relever pour parvenir à une égalité réelle entre les genres. Le thème, nous le savons, c'est pour un monde digital inclusif, hein, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et à Cara, on a eu l'occasion de célébrer les 12 meilleures filles au baccalauréat deuxième partie des régions de la Cara, des savanes centrales et des plateaux. Elles ont été honorées pour leur prouesse, leur performance. Et autre journal, oui, cette semaine, on a vu également que ici et là, il y a eu des rencontres, des échanges, des conférences. Certaines ont porté sur le leadership féminin. Et nous apprenons que, pendant que nous sommes au studio, Thierry Afan, que les femmes de Edith Togo et Togo Press sont à un panel où quelqu'un est venu les entretenir sur le cancer de l'utérus. Donc, occasion d'adresser un clin d'œil au directeur de Togo Press, que certains ironisent pour dire l'éternel directeur de Togo Press, notre ami Rémi Assi Banafay, c'est lui quand même qui a permis que la célébration du 8 mars soit couplée avec cet entretien avec les femmes qui portent le cancer de l'utérus.
Oui, tout à fait. Au-delà de ce qu'on peut lui reprocher par rapport à...
On constate juste,
à sa longévité à la tête de cette structure de l'État. Monsieur Assi fait de son mieux pour l'épanouissement de son personnel. D'ailleurs, il le dit à cœur ouvert, quand vous l'approchez, il fait de son mieux pour que cette structure-là puisse continuer par exister et continuer par donner l'information au quotidien. Vous savez que après, à part Togo Press, nous n'avons que peut-être deux quotidiens côté privé qui sont réguliers. Donc le travail
deux privés.
Oui, je veux parler de Liberté et oui. Puis de Économie
Togo Montant.
Hein?
Togo Matin, en
fait. Mais Togo Matin paraît maintenant trois fois par semaine.
Voilà, donc
lundi, mercredi et vendredi.
Économie, et que, un journal économique également. Donc, ce n'est pas facile.
Écofinance.
Voilà, Écofinance, voilà le nom du magazine, et du journal plutôt. Donc, notre travail, c'est un travail harassant. Il faut dire que nous, les médias en ligne, nous sommes au quotidien, c'est vrai que c'est du factuel.
Non,
que
vous n'êtes pas quotidien, vous êtes instantané.
Voilà, c'est vrai que c'est du factuel que nous faisons, mais pour ceux qui s'y connaissent ou se sont prêtés à l'exercice, ils vous diront que ce n'est pas du tout facile. C'est pour cela que quand des fois il y a des dérapages, nous demandons que qu'on ne puisse pas nous tenir trop rigueur parce que ce n'est pas facile ce travail que nous faisons.
Un mea culpa avant l'heure.
Voilà.
Nous y reviendrons. Toujours pour la célébration du 8 mars, Germain, ton journal Togo Réveil lui consacre un article intitulé « Comment favoriser la formation qualifiante et l'employabilité des femmes travailleuses ?» Voilà également un angle de la célébration de cette journée.
Oui, tout à fait. C'est par rapport au secteur de l'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes sont partout. Hein. Elles sont dans l'armée, elles sont dans la police, elles sont dans les...
Ah, ça commence à baisser.
voilà, elles sont partout. Et donc, aujourd'hui, l'énergie est un grand défi donc pour nos pays. Et il faut former un personnel qualifié, surtout par rapport à l'énergie solaire aujourd'hui, qui est une option qui est prise par notre pays. Donc, Madame la ministre de l'énergie, qui est la plus jeune ministre donc, de notre gouvernement, a initié une rencontre pour motiver les femmes et chercher des voies et moyens pour les former d'abord, afin qu'elles puissent donc occuper des responsabilités et travailler efficacement dans le secteur de l'énergie. C'est à saluer. Donc, c'est des métiers traditionnellement réservés aux hommes pour lesquels on encourage ou on forme les femmes. Je pense que l'idée du 8 mars donc, a été bien comprise donc, au niveau de ce ministère et dont on a parlé donc, de cet article de notre parution d'aujourd'hui.
Eh bien, il y a le thème international pour le 8 mars. Mais les célébrations, on l'a vu ici à Accra, les 12 meilleures filles, les meilleures qui ont réussi au bac 2 ont été honorées par l'État et ses partenaires, ce qui n'est pas rien. Ici et là, dans la société publique, parapublique et privée, il y a des rencontres comme ce qui se fait actuellement à Edi Togo. Et ailleurs, on a parlé de leadership et puis le ministère des Mines. Qui a axé la célébration sur la formation qualifiante et l'employabilité des femmes. Justement, Madame Trenou, rebonjour.
Bonjour, Monsieur Sassgaro.
Vous qui avez travaillé dans le système bancaire jusqu'à votre retraite, vous qui continuez encore à vous intéresser aux questions sociales ici et là, que pouvez-vous nous dire sur le sujet égalité de traitement entre la femme et ses collègues hommes, du moins pour le Togo, le cas que nous connaissons?
Oui, le problème de la discrimination sur le lieu de travail est certainement un des droits qui est le plus revendiqué. Et d'ailleurs, la loi s'est penchée sur ce phénomène de discrimination. Et il est certain que la femme n'est pas en situation égalitaire avec l'homme dans ce domaine. Déjà, au niveau du recrutement, à compétences égales, à niveau de connaissances, l'homme est certainement préféré à la femme au niveau du recrutement pour diverses raisons.
Notamment
le fait que l'employeur craint toujours que la femme parte en congé de maternité, et donc désorganise le travail.
Actuellement, le congé de maternité, ça tourne autour de 3 mois. Or, la vie de l'entreprise ne doit pas s'arrêter.
Et l'entreprise ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une rupture du contrat de travail. Mm-hmm. Donc, c'est réglementé par la loi.
Oui.
Le deuxième aspect, l'inégalité des chances au niveau de la rémunération. Et de la promotion. Et c'est sûr et c'est connu partout dans le monde entier d'ailleurs que à travail égal, à performance égale, la femme est sous-payée par rapport à l'homme.
Oui.
On ne sait pas trop pourquoi et c'est l'un des combats les plus importants aujourd'hui dans les sociétés occidentales.
Madame, la dernière fois, on a écouté même le secrétaire général des Nations Unies parler de ce problème et a dit que il ne faut pas attendre moins de 300 ans pour que la femme et l'homme puissent avoir les mêmes traitements salariaux. Mmh. Mais pour revenir à vous, vous parlez tantôt de recrutement. Il semble que certains employeurs hommes feraient du chantage et ne recruteraient que les femmes qui leur plaisent par leur beauté plastique. Et puis sur le lieu de travail, la femme qui veut avoir de la promotion doit souvent adorer le canapé de son patron. Qu'est-ce que vous en savez de par votre expérience, Madame Trenou?
Oui, c'est certain, c'est indéniable, on ne peut pas le nier. C'est une réalité du monde du travail dont on parle très peu. Mm-hmm. Mais c'est certainement ce que les femmes vivent douloureusement au travail. Et moi, je me dis toujours que le chef de service, le chef des ressources humaines, les patrons ne réalisent pas que, après tout, ce sont soit leurs femmes, soit leurs enfants qui peuvent être mises dans ces situations-là au travail. Mm-hmm. S'ils y pensaient, les choses iraient différemment. les femmes ne s'en plaignent pas, mais le harcèlement sexuel sur le lieu du travail, je pense qu'il va falloir sérieusement s'y pencher.
Merci, Madame Katanga, rebonjour. Vous êtes doublement concernée par ce problème. Hein, vous êtes femme et vous êtes directrice de l'ANADEP. Alors, comment vous y prenez-vous à l'ANADEP pour que les femmes, quels sont les traitements ou bien quelles sont les conditions de travail que vous offrez aux sœurs à l'ANADEP pour ce qui vous concerne?
Merci beaucoup. Ça aurait été mieux peut-être de les interroger elles-mêmes, parce que si moi je vais parler, je ne peux que parler en ma faveur. Je souhaiterais à une autre occasion que mes consoeurs, mes collègues femmes soient interrogées, qu'elles puissent répondre pour ce qui me concerne. Sinon, je me dis, l'ANADEB, si je prends le staff, on est 4 directeurs, je suis la directrice générale avec 3 directeurs. Sur les 3, il y a 2 femmes. Alors on n'a qu'un seul homme, donc à 4, quand on est à 4 pour décider de l'agence, on n'a qu'un seul homme, et donc on a plus de femmes, et donc nous sommes beaucoup plus attentifs à notre situation. Ce n'est plus, nous ne gérons pas.
Mais parce que c'est vous qui êtes à la tête, ça se comprend.
Oui. Oui. Et moi, et Alan Adeb, comment on l'appelle, l'accouchement, les permissions des femmes se déroulent de soi, parce que elle veut faire un enfant. Si on ne faisait pas d'enfant, est-ce que nous on serait là? Donc il y a pas, je me dis, pour ce qui concerne mon agence, on n'a pas, même si c'est pas écrit noir sur blanc quelque part, le fait que nous soyons femmes, les choses vont beaucoup plus facilement. Peut-être les aspects auxquels il faut faire attention quand vous êtes femme, non? Vous voyez, il y a le cœur de mère qui rebondit devant, beaucoup plus devant certaines situations. Et vous êtes beaucoup plus modéré dans certaines prises de décisions. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître que nous sommes beaucoup plus exigeantes en termes de performance, de qualité de travail. Parce que je me dis, nous ne devons pas, nous devons mériter nos postes. Voilà comment moi je prends la chose. La femme doit mériter son poste, et donc si elle doit mériter son poste, nous avons les mêmes facultés, je dirais, non, naturelles. Vous avez une tête, j'ai une tête, vous avez ce que j'ai, vous l'avez, donc on peut ensemble, on peut pousser ensemble pour faire avancer les choses, et non et se dire, est-elle, c'est une femme.
Merci, Madame Katanga. Voilà. Merci. Oui, Thierry.
Oui, vous permettez que je place un mot sur l'ANADEB. Pour ceux qui connaissent bien l'ANADEB, je crois que cette structure-là, comme c'est une structure de terrain, quand vous les voyez, tous ceux qui, en tout cas pour ce qui concerne le personnel, il n'y a pas de différence dans les activités sur le terrain, que ça soit femme ou homme, ils mettent du cœur dans ce qu'ils font et les résultats sont là. Voilà le mot.
Traitement est le même.
Voilà.
Je sais quelque chose. Le club, la presse a fait le terrain avec l'ANADEB. Vous rappelez ces émissions que nous avons délocalisées dans des endroits ailleurs, même nous avons dû porter nos matériels sur les épaules pour franchir les cours d'eau. Les techniciens en savent quelque chose. Alors pour revenir à vous, Madame Trenou, je disais tantôt que vous êtes un cadre, ou bien, dois-je dire, une cadre retraitée, parce que tout le monde maintenant se conjugue au féminin.
Un cadre, si
vous voulez. Ok, vous êtes un cadre de banque retraitée, mais vous êtes toujours actif de par vos engagements sociaux ou bien sociétaux. Et justement, vous êtes la présidente, nouvellement élue, du conseil d'administration du foyer Appel. Entendons par là l'association pour la protection et la promotion de l'enfance de Lomé. Le magazine Dagan a même consacré un article au foyer Appel. Alors, on ne peut pas avoir la présidente du conseil d'administration du foyer Appel dans ce studio et ne pas lui demander de nous en dire un mot, Madame Trenou.
Oui, merci. Cette association, en fait, existe pratiquement depuis 1983. Elle a été créée à l'époque par Sœur Jeannine Brochard, qui était une assistante sociale à la brigade des mineurs à Lomé, et par le regretté Yves Marguera, qui était donc anthropologue et chercheur à l'Orstom. Ils avaient été émus par la situation des enfants de la rue, des délinquants, tous ces jeunes en rupture de banc familial qui traînaient dans les cimetières, et sur les bancs, autour du marché, etc. Et ils ont voulu créer ce foyer qui soit un abri pour les recueillir, les éduquer, leur donner une chance de s'épanouir et de sortir de ce milieu de la délinquance.
Et le foyer appelle, comme l'écrit Dagan, veut et continue d'offrir depuis plus de 40 ans, offrir aux enfants en difficulté vivant dans les rues de Lomé un havre de paix et un cadre idéal pour grandir et s'épanouir. Alors, vous les prenez entre 5 et 15 ans, enfin à partir de 5 ans, et vous leur offrez l'opportunité d'aller à l'école jusqu'à l'université pour ceux qui sont bons, ou bien d'apprendre un métier, d'avoir une qualification professionnelle.
Oui, tout à fait. Les plus jeunes sont donc en fait en pension, hein, c'est un foyer, sont en pension. Ils vont à l'école dans le quartier, les primaires publiques, l'école, les CEG. Ils sont à peu près une trentaine internes. Et au-delà du brevet, et au-delà donc de 16 ans, ils vont au lycée en général ou à l'université. Et à ce moment-là, ils sont soit auprès des structures familiales soit auprès de parrains, et ils sont pris en charge quand même, là encore, par l'association.
Merci. Nous parlions du problème des enfants de la rue. C'était le mardi dernier. Il y a l'exemple du foyer appel. Vous faites ce que vous pouvez, mais vous avez certainement besoin de l'accompagnement, de bonne volonté qui s'associe à vous. Si vous aviez plus de moyens, vous recueilleriez davantage d'enfants, n'est-ce pas, Madame Trénaud?
Non, mais il est évident que le nombre d'enfants en difficulté ne fait que s'accroître, malheureusement, et que les ressources pour faire marcher ces associations s'amenuisent. Par exemple, le foyer appel reçoit l'appui du CSEL, c'est un comité de Français basé. Un comité, lui, d'adultes de seniors basés en France, qui pourvoit pour la plus grande part au fonctionnement du foyer. Il y a aussi l'Action PIT, qui est une structure allemande qui donne des bourses aux enfants. Mais ce qu'on constate, c'est que ce personnel, ces aides viennent de personnes vieillissantes. Moi, j'ai eu à les rencontrer à plusieurs reprises en France. Ils s'en plaignent. Les plus jeunes ne s'intéressent plus à ce genre d'activité chez eux, et ils se posent un véritable problème de trouver maintenant des ressources pour assurer la pérennité de ces associations.
Donc, c'est les seniors français et allemands qui vous soutiennent. Je n'ai pas entendu d'associations togolaises, ghanéennes ou nigériennes.
Et oui, tout le problème est là. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Et là, j'ai l'intention d'organiser des journées portes ouvertes pour que les nationaux se saisissent de la réalité de cette problématique de l'enfance en difficulté, et viennent aussi un peu y mettre un peu de leur poche. À ces œuvres-là, c'est un peu choquant que les fonds ne viennent que de l'étranger. Bon, nous avons des aides, par exemple le Lions Club fait chaque année quelque chose, la bibliothèque a été construite par le Rotary, mais bon, ce sont des actions ponctuelles. Et il faut assurer les frais de fonctionnement.
Merci. Le foyer appel SI au quartier Doumacessé, non loin de Léamo, à côté ici. Madame Katanga, rebonjour.
Rebonjour.
Eh bien, retournons donc au 1er mars qui était la journée africaine de l'alimentation scolaire que vous aviez commémoré dans un village du Togo profond, dans le Zio. Vous nous rappelez le village, s'il vous plaît, madame?
Dans Zio 4.
Dans la commune Zio 4. Le thème, c'était stimuler les systèmes locaux d'approvisionnement alimentaire et les chaînes de valeur régionales, le rôle de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, pour des programmes d'alimentation scolaire durable et l'amélioration de l'apprentissage. Et donc, l'aspect que vous avez mis en lumière, c'était les cantines scolaires. Eh bien, dites Madame Katanga, directrice de l'ANADEM, qu'est-ce que l'État togolais vise à travers les cantines scolaires et comment est-ce que cette opération est mise en œuvre dans notre pays?
Merci beaucoup. Les cantines scolaires, comme leur nom l'indique, c'est des repas chauds qui sont fournis à des écoliers, des zones un peu reculées de notre pays, des zones un peu enclavées où le taux de scolarisation est en deçà des normes. Voilà. Surtout la scolarisation de la jeune fille. Voilà. Hein. On retombe encore sur le 8 mars, à partir du 1er mars. On constate que dans certaines localités de notre pays, les filles n'arrivent pas à décrocher le CPD. Je commence par là, le CPD. C'est difficile aux filles parce que d'abord l'école est éloignée de la maison et quand elle doit aller, s'il faut revenir à midi, c'est qu'elle ne peut plus retourner le soir. Ou bien quand elle revient à midi, c'est elle qui doit s'occuper des travaux ménagers et préparer à manger. Et quand elle finit, il est tard, elle va revenir à l'école un peu en retard. C'est elle qui subit peut-être des humiliations parce qu'elle arrive en retard. Et quand elle arrive aussi à l'école, c'est clair, ayant travaillé sans repos, elle est moins active à l'école et donc les résultats en fin d'année ne sont pas très intéressants pour elle. Et comme ça, elle démissionne rapidement parce qu'elle commence l'école avec certains et puis elle se rend compte à un moment donné que tous ceux avec qui elle a commencé sont à des niveaux élevés et elle est toujours en train de reprendre ses classes. Ça ne l'encourage pas. Et donc, l'État togolais s'est dit, il faut soutenir cet effort de ces filles-là dans ces zones. Donc, en donnant à manger, donc, les repas qui sont livrés évitent à ces enfants de reparcourir de grandes distances pour repartir à la maison tous les midis. Ils ont la possibilité, après le repas, de passer le temps de se reposer, de relire leur cours et de reprendre plus aisément l'après-midi, les travaux scolaires de l'après-midi. Voilà. Et donc, également, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas seulement les résultats scolaires qui sont visés par les cantines scolaires, mais c'est comment on fait des cantines scolaires une clé pour booster l'économie locale. Voilà. Le thème de cette année vient à point nommé. Mm-hmm. Comment aider les petits producteurs à participer à la cantine scolaire en vendant leurs produits à cette cantine. Mm-hmm. Et donc, qui dit vendre les produits, dit aussi augmentation de revenus chez le producteur et en même temps augmentation des surfaces à cultiver les prochaines saisons.
Mm-hmm. Voilà. Donc voilà l'innovation, l'une des innovations en lien avec le thème de cette année. Et rappelez que les cantines, l'État togolais fait l'effort de les implanter, comme vous l'avez dit, dans les zones les plus défavorisées, oui. Les plus pauvres, les plus enclavées.
Oui.
Et les candidatures ne manquent pas.
C'est toutes les écoles. En fait, la loi dit que c'est toutes les écoles primaires publiques. Mais bon, en fonction des ressources dont on dispose, on va de façon progressive. Mm-hmm. Mais il faut noter également qu'il y a des partenaires, il y a d'autres acteurs qui accompagnent l'effort du gouvernement togolais. Nous avons le CRS, nous avons M-Afrique, nous avons certaines ONG qui accompagnent aussi certaines écoles dans la fourniture de repas surtout le repas de midi, pour aider les écoliers, les écolières à poursuivre leur formation, en tout cas leur scolarité aisément.
Merci. Alors, les objectifs que vous visez à travers ces inondations en lien avec le thème, vous l'avez dit, mais vous devez certainement rencontrer des difficultés dans la production et la consommation des produits locaux, n'est-ce pas, madame?
Oui, merci. Cette année, nous avons entrepris une initiative dans la commune de Zio 4, où on a 15 écoles et on a essayé, on s'essaye dans l'achat des produits locaux. Et ça, nous disons d'abord bravo, parce que les différents acteurs, surtout les producteurs, ont adhéré. Mais maintenant, c'est qu'il faut encore travailler avec les uns et les autres pour s'accorder sur la gestion de toute la procédure qui est liée à l'achat des produits locaux. Les producteurs de Zio, l'Union des producteurs du canton de Gapé, s'est engagée à fournir le maïs, le gari, ça n'a pas été possible, le riz et le haricot. Mais bon, chemin faisant, et la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le coût. On a signé un contrat pour un montant donné, mais au moment de la livraison, les producteurs se disent « Ah non, maintenant on vend le maïs là à tel montant au marché. »
Sur le marché.
Sur le marché. Qu'est-ce que nous gagnons à vous vendre nos produits à tel montant? Oubliant qu'en le vendant aux écoles, à la cantine, c'est en même temps à nos enfants. C'est à vos propres enfants que vous vendez. Mais ils se disent « Non. C'est pas moi seul, c'est pas mes enfants seuls qui sont là-bas. Pourquoi c'est moi qui les perds ?» Donc, il y a toute une éducation, il y a tout un travail que nous devons faire avec les acteurs, les producteurs qui sont dans la production, pour que les prochaines fois, qu'on sache vraiment, qu'on ait une meilleure maîtrise du coût au moment de la signature du contrat, pour qu'on n'ait pas à revenir sur le montant auquel on veut vendre les produits.
Et quelle approche de solution vous avez trouvé avec vos partenaires producteurs?
La solution, c'est encore la formation. C'est-à-dire, au début, ça veut dire que les producteurs, si les producteurs reviennent sur le coup deux ou trois semaines après, c'est parce que il n'y avait pas eu un travail approfondi qui a été fait autour du prix de production, du coût de production. Voilà. Sinon, au moment de la production ou à n'importe quel moment, le producteur doit savoir le montant auquel il peut vendre son produit et garder sa marge bénéficiaire. Mais s'il y a tout ce travail-là qui n'a pas été suffisamment fait, on va rester comme nous avons l'habitude de le faire dans notre culture. On va au marché et puis on dit « Ah, aujourd'hui, le maïs est à 100 francs, et puis tout le monde le vend à 100 francs, sans jamais se prendre du recul pour se dire, mais si je le vends à 100 francs, est-ce que je perds? Est-ce que je gagne? Si oui, je gagne combien? Mais il y a tout ce travail-là que nous devons faire avec ces producteurs. Et l'autre chose, nous devons également regarder la qualité de la production, parce que maintenant que c'est des produits groupés. Avant, les mamans cantines allaient au marché régulièrement. Maintenant que c'est des stocks qui vont être livrés à ces écoles, il y a d'autres défis. D'abord, le magasin pour stocker, il est là. Et puis, les précautions, en tout cas, le dispositif pour le stockage aussi, il faut le maîtriser pour que ce que les producteurs livrent à l'école puisse garder sa qualité durant la période de son utilisation. On peut être fier pour se dire, ben, c'est pas seulement les agriculteurs qui sont engagés avec l'ANADEP. On a le ministère en charge de l'agriculture à travers la direction régionale qui s'occupe de l'agriculture, et l'ICAT qui sont là à nos côtés, parce que l'ANADEP n'a pas la maîtrise de tout ce qui est agriculture, mais on a cette belle collaboration avec ces institutions qui font le travail en amont, et nous bénéficions des résultats de leur travail. Donc on s'est dit, pour l'année prochaine, on va se prendre tôt pour que tout l'accompagnement soit fait à cette union. Et si on doit aller à l'échelle également, se dire, on commence par le renforcement des capacités ou l'accompagnement des producteurs pour que la qualité soit au rendez-vous.
Donc là, vous nous rassurez que les cantines scolaires sont toujours promises à un bel avenir si l'État togolais peut toujours compter sur les partenaires.
Oui, oui. Les cantines scolaires, on peut pas arrêter ça. On peut pas. C'est comme vos enfants à la maison. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que non, mes enfants ne vont plus manger, je ne veux plus donner à manger. C'est ça l'état vis-à-vis de ces enfants, de tous les enfants du Togo et surtout de ceux qui sont dans des conditions beaucoup plus difficiles.
Merci Madame la Directrice Générale de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base, la NADEB. Pendant qu'avec les Thierry et Germain, nous embrayons maintenant sur le chapitre suivant, les défis de la liberté de presse au Togo. Commençons avec Germain, cet article de Togo Réveil, quand vous écrivez ce matin, promotion de la liberté d'expression et protection des défenseurs des droits de l'homme au Togo. Il s'agit sûrement de ce projet qui a été lancé hier.
Oui, hier a été lancé donc à l'hôtel Concorde le projet donc protection des journalistes et des droits des défenseurs des droits de l'homme. Donc c'est un projet qui a été porté par l'Observatoire togolais des médias avec quelques partenaires dans l'Institut Paros basé à Dakar.
Le volume diminue.
Et puis voilà. Et puis le réseau Femmes Développement. Et avec le soutien de l'Union Européenne, oui. Donc, qui finance ce projet pour 3 ans. Il s'agit d'identifier les acteurs. Les cibles sont les médias, les acteurs des médias, les organisations syndicales, les ONG, et les institutions de la République aussi. Et le constat a été fait que le Togo a un cadre donc et réglementaire juridique assez propice donc à l'épanouissement de la presse, mais dans la réalité donc il y a quelques petites difficultés donc que nous connaissons tous, que nous avons l'habitude de discuter ici, et donc l'OTM avec le soutien de l'Union européenne veut pouvoir former les acteurs donc de la presse déjà pour une professionnalisation du métier, pour mieux profiter donc de cette liberté-là. Oui. En même temps, faire des plaidoyers auprès des décideurs, donc pour de nouvelles lois, des pratiques aussi plus favorables donc à l'exercice du métier de journalisme et puis aussi à la protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est un projet qui consistera à des appels à projets. Ils vont lancer. Et les gens vont se proposer, et puis s'ils sont élus, ils seront donc financés pour ces activités. Donc l'impact, c'est que d'ici 3 ans, l'OTM espère que la pratique sera beaucoup plus intéressante. C'est vrai que le Togo, ces dernières années, est assez bien classé donc dans le classement RSF sur la liberté de la presse.
Reporter sans frontières.
Reporter, mais les défis restent donc réels. Et ce financement a permis aussi à l'OTM de se doter d'un siège qui a été inauguré hier après donc cette cérémonie de lancement. Oui. Maintenant, on attendra les détails. Moi, je suis pas. Il y a un comité de pilotage qui suit tout ça. Et on verra donc quand les premiers projets seront lancés. Donc ça a été juste un atelier introductif pour présenter le projet aux journalistes, aux défenseurs des droits de l'homme, à toutes les composantes sociales qui pourront intervenir dans ce projet. L'ambassadeur de l'Union européenne qui a financé ce projet à hauteur de 500 000 euros, donc pour 3 ans. Était là, et le gouvernement togolais, les institutions de la République, la CNDH, le ministre de la Communication et des médias était représenté par son directeur de cabinet. Donc,
tout ce beau monde-là pour ce projet, plutôt programme, hein, sur 3 ans, il s'agit de faire la promotion de la liberté d'expression par davantage de professionnalisation, protéger les journalistes, protéger également les défenseurs des droits de l'homme. C'est un programme bien intéressant et qui arrive à point, n'est-ce pas Thierry Yavanoukoué?
Oui.
Le lancement de ce programme a été fait dans cette atmosphère de quelques morosités. Parce que depuis dimanche, nous en sommes à nous demander, mais qu'est-ce qui arrive à Ferdinand Mensah en Haïti? Où est-ce qu'il se cache? Qu'est-ce qui lui arrive? Aujourd'hui encore, le journal L'Échiquier, écrit à la page 5, Ferdinand a été contraint à l'exil, pendant que le Canard indépendant, lui, à la page 3, se demande si Ferdinand a été est un exilé de plus. Thierry, depuis dimanche, Ferdinand a été porté disparu. Enfin, il a disparu de la circulation jusque dans l'après-midi du mercredi, quand un message capté sur les réseaux sociaux laisse entendre d'abord que ce message émane de lui-même, Ferdinand Haïté. Il dit qu'il s'est mis à l'abri, il est en sécurité pour le moment, mais cela ne fait que relancer davantage le sujet. Qui en veut à Ferdinand Haïté? Où est-ce qu'il est? Et qu'est-ce que tout cela augure pour l'avenir?
Oui, où est-ce qu'il est? Personne ne saura le dire, en tout cas à l'instant T. Parce que quand il a donné signe de vie, il avait dit qu'il reviendra sur ce qui s'est passé jusqu'à ce qui s'est passé au point où il était obligé de traverser la frontière. Je crois que déjà hier, Mas Carmel sans vie essayait de relater ces derniers trois jours, puisque déjà vendredi, ici, il y a une semaine, vous annonciez le fait que ils étaient attendus pour le 8. Le 8
mars. Il avait reçu une citation directe à comparaître voilà. Le 8. Lui, Ferdinand, Isidore Kouonou et le regretté Joël Cossy-Vignon également.
Alors, tout à fait. Et dans ce que Mas écrivait, il disait que Ferdinand voulait traverser la frontière du côté de Togo-Bénin.
Le samedi.
Le samedi, alors que en réalité, Ferdinand était en liberté provisoire. Et quand c'est le cas, il y a des restrictions. Il ne pouvait pas quitter un certain périmètre donné, et s'il devrait le faire, il devrait le signaler au juge. Mm-hmm. Malheureusement, si tel que Mas relatait les faits, il ne l'a pas fait. C'est pour cela qu'il avait eu des problèmes à la frontière là-bas, parce que il a été signalé et après on l'a ramené. Je crois que il était soumis à des interrogatoires, et puis par après, avec le CB de Danira, mm-hmm. et puis par après, il était ramené au SCRIC. Et dans la foulée, après qu'il a été libéré, il y a une autre convocation du SCRIC, ce qui a paru un peu bizarre, c'est que la convocation était sur dimanche. Je serai à la place de Ferdinand vu la dernière convocation au niveau du tribunal et encore une nouvelle convocation du SCRIC. Je serai à sa place, je n'aurai le choix que de traverser la frontière comme il a fait, parce que quand on sait qu'il avait déjà passé
trois semaines. Si tu aurais fait comme lui, cela dénote un déficit de confiance
voilà.
Par rapport au SCRIC oui. lui-même et au système judiciaire. Plus un journaliste comme Ferdinand, il aurait, d'aucuns seraient attendus à ce qu'il restât au pays et qu'il alla au SCRIC et puis qu'on voit ce qui devrait advenir.
Oui, parce que déjà, il avait des restrictions et il a violé ces restrictions-là. Donc, il y a déjà un problème. Mm-hmm. Donc, il ne sait pas le sort qui lui est réservé en retournant. En répondant à la convocation du SCRIC le dimanche.
Dimanche à 15h.
Le SCRIC, dans tous les jours ouvrés que nous avons 5 sur 7, n'a trouvé le convoqué que sur un dimanche. C'est un peu curieux. C'est pour cela que je disais, je serai à sa place, vu les antécédents, je n'aurai le choix que de traverser la frontière. Donc, je crois que l'alerte n'a été donnée que quand il était sûr qu'il avait déjà passé la frontière. Et nous, on croyait qu'il était kidnappés. Quand on fait un peu le lien avec ce qui s'est passé récemment au Cameroun, on avait peur pour sa vie. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Alors, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune...
À la nuance près que ce qui est arrivé à notre confrère camerounais, ce n'est pas des forces officielles de l'État qui l'ont kidnappé et assassiné, mais c'était un circuit parallèle. Même si, selon les enquêtes, on trouve que il y avait des policiers, gendarmes. C'était un circuit parallèle qui a enlevé le confrère camerounais et l'a assassiné. Alors qu'ici, le SCRIC, il est quand même officiel. Et voilà.
Sauf que la convocation sur dimanche était un peu curieuse. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je le dis, je le répète, oui. Je serai à sa place. Je vais aussi détailler parce que ça ne me fait pas sérieux. Sur 5 jours ouvrés et 2 week-ends, on a trouvé le convoqué que sur un dimanche.
Oui.
Alors
qu'il devait déjà comparaître devant le juge
le 8 dans 2 jours, 3 jours.
Qu'est-ce qui urgeait qu'on le convoqua le dimanche à 15h?
Voilà.
Au SCRIC encore.
C'était prévisible, puisque, à ce que je sache, quand vous êtes sous contrôle judiciaire, normalement, on devrait vous retirer votre passeport. Mais je crois qu'entre-temps, il avait eu accès à son passeport, puisque selon des proches, il avait entre-temps voyagé en Irlande ou Islande pour un forum.
Donc, il avait rentré au pays.
Voilà, il avait le passeport. Peut-être que c'est là aussi qui l'a encouragé à prendre la tangente.
Oui. Mais Germain,
tout cela n'augure rien de bon pour nous qui continuons par exercer ce métier. On se demande à quelle sauce on va être mangé.
Alors, Germain,
parce que son supposé porté disparu avait inquiété plus d'un. Il y avait même certaines autorités qui nous appelaient pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que personne ne comprenait.
Ouais, on avait craint qu'il fût enlevé par X, par Y. Dieu merci. Encore que si son message qu'il a posté sur Facebook est authentique, c'est un petit soulagement qu'il est en sécurité quelque part. Mais Germain, ce que Thierry dit est fort évocateur. Si Ferdinand a dû se mettre à l'abri, et que si Thierry dit qu'il en aurait fait de même, cela pose un problème d'un déficit de confiance entre Ferdinand, Thierry et bon nombre de Togolais d'un côté, nos forces de sécurité et la justice de l'autre.
Oui, bon, il y a un déficit de confiance, certain, mais il y a toujours cette peur-là, parce que, comme Thierry l'a dit, comme il n'a pas totalement respecté dans les conditions de sa mise en liberté sous contrôle, peut-être qu'il avait peur que cette fois-ci, on lui applique autre chose. Donc, c'était normal qu'il s'enfuit pour échapper peut-être à une éventuelle détention. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ce qu'il a craint. Mais maintenant qu'il fait signe de vie, donc déjà tout ce qu'on imaginait et toutes les idées noires qu'on pouvait avoir, surtout en se rappelant ce qui s'est passé au Cameroun, donc ça a soulagé donc plus d'un Togolais, surtout dans la corporation, et même je pense aussi, comme Thierry l'a dit, aussi bien les autorités, parce que si il disparaissait, on dirait que ce sont les autorités qui l'ont enlevé. Heureusement qu'il a fait signe de vie. Maintenant, son avocat a eu donc à se prononcer. Et après, est-ce que juridiquement on peut négocier encore d'autres conditions favorable pour qu'il puisse revenir, parce que c'est ça l'avantage de notre métier. Il y en a un code de la presse qui est dépénalisé, entre guillemets, où on ne peut pas nous envoyer aussi facilement en prison.
Mais quand même, pas aussi facilement.
Oui, mais
pas comme les autres. Mais le risque n'est pas totalement exclu.
Oui, pas totalement exclu. Maintenant qu'il a violé un peu sa disposition, est-ce que la loi sera plus rigoureuse envers lui au cas où il était sur place? Je pense que c'est ce qu'il a craint. Maintenant, son avocat, qui est en contact avec la justice, c'est à lui d'évaluer maintenant la situation pour voir s'il vaut mieux qu'il reste encore un peu là où il est le temps que les choses se calment un peu ou s'il peut toujours revenir et avec cette garantie de représentativité parce que comme vous l'avez dit, c'est un journaliste qui exerce ici, qui vit de ce qu'il fait. Il n'a aucune raison de s'enfuir, de se cacher. Il ne va pas s'enfuir. La preuve, il a pu voyager, il est revenu. Il aurait pu, comme certains, rester en Occident. Donc, au regard de tout cela, est-ce que l'avocat aujourd'hui peut lui assurer un retour sans inquiétude pour que là, s'il y a procédure judiciaire qu'elle puisse se poursuivre pendant qu'il est en liberté. Donc ça c'est la grande question. Mais en même temps, vous savez que quand un journaliste est en difficulté dans un pays, on pense tout de suite aux atteintes à la liberté de presse.
Oui.
Même si le sujet n'est pas cerné, même si on ne sait pas pour quelle raison il a été convoqué dimanche. On peut imaginer que c'est une pression supplémentaire qu'on met sur la presse. Et Thierry n'a pas tort de dire que ceux qui sont là ont le droit de s'inquiéter. Mais je crois que
voilà.
Il faut que la justice aussi comme
tous les journalistes togolais sont en sursis. J'ose plutôt croire que non. Et cela nous ramène encore à la pensée du jour qui nous dit sois optimiste, peu importe sa situation, mais n'ignore pas la réalité. Je pense quand même que nous pouvons faire confiance à notre pays, à nos lois, à nos forces de sécurité, que la police, la gendarmerie sont d'abord là pour protéger nous les Togolais, veiller sur nous et que la justice nous dise le droit.
C'est l'immixion du SRIC, l'immixion récurrente du SRIC dans les affaires de presse qui inquiète le plus. Qu'il est entendu au niveau de la gendarmerie à Nero, je ne vois pas pourquoi on l'a ramené encore au SRIC. Puisque, que ce soit au SRIC ou encore au niveau de la gendarmerie, c'est toujours dans
c'est
la...
C'est toujours la gendarmerie.
Oui, voilà, c'est toujours des gendarmes. C'est de la police judiciaire, en fait. Donc, je
ne vois pas... Le SRIC, c'est un corps de gendarmerie.
On ne comprend rien. Le fait même...
Voilà.
Le nom SRIC même, ça fait tic dans la tête.
Oui.
C'est, vous vous rappelez, la dernière fois, vendredi, je disais, quand tout cela se passe, c'est vous et vous seul. Vous pouvez beau avoir tous les soutiens, mais c'est vous et vous seul la nuit. Savez si vous dormez ou pas, ou la nuit est blanche ou pas. Donc, ça nous appelle aussi à être plus regardant.
Alors justement, c'est sûrement un ami qui m'écrit comment est-ce que je réagirais si le SRIC me convoquait pour demain samedi à 15h. Vivement que le SRIC ne m'envoie jamais une telle convocation. Alors, les réactions, nous posons des questions. Et les premières réactions commencent à sortir. Le PPT, le patronat de la presse togolaise, vient de sortir un communiqué. J'ai également vu un communiqué du Front Citoyen Togo Debout. Et il y a également un communiqué de la Dynamique, Monseigneur Pogro. Je présume que dans les heures qui suivent, ça va être un concert de communiqués ici du Togo, d'Afrique et du monde entier. Alors, la solution pour prévenir tout ça, c'est que tout le monde, toutes les bonnes volontés s'y emploient pour que contact soit pris avec Ferdinand Haïté et qu'il revienne au pays ici et qu'il nous dise ce qui l'a contraint à partir et également ceux qui lui ont envoyé la convocation par le SRIC. Que eux aussi sortent de leur silence pour s'expliquer, qu'on parle et qu'on dissipe la peur. Je rappelle que nous sommes en année électorale, nous avons déjà tous les problèmes. On n'est pas totalement sorti de la crise sanitaire, la crise économique est là, la crise sécuritaire sévit dans le pays. Nous sommes en année électorale, on ne va pas ajouter encore un problème de peur entre la presse, les défenseurs des droits de l'homme et l'État togolais. Nous sommes togolais et fiers de l'être, n'est-ce pas Thierry?
Tout à fait.
N'est-ce pas, Thierry, n'est-ce pas Germain?
Et Ferdinand n'a pas choisi de quitter son pays, bien que il avait des pressions, des menaces ici et là, il était toujours resté au pays. La preuve, quand il avait voyagé récemment, comme Germain l'a
dit, il est rentré.
Il pouvait rester en même temps, mais il est revenu au pays. Voilà.
Eh bien, nous, hein, nous, journalistes togolais, nous sommes fiers d'être togolais, nous sommes fiers d'exercer notre profession au Togo. Et nous demandons aux plus hautes autorités du Togo de nous aider à mieux le servir. C'est le slogan de la TDE. Aidons-nous à bien nous servir. Il ne sert à rien d'attirer une campagne nocive, négative sur notre pays. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ça s'adresse à tout le monde. Et comme c'est une tradition, à commencer par le chef de l'État, n'est-ce pas, Germain? Dans une telle situation, c'est lui que nous commençons à charger avant de descendre sur tous les autres.
Oui, le premier des Togolais, donc c'est lui, mais en même temps, par rapport à ce qui s'est passé hier à l'hôtel Concorde, c'est qu'on arrive aussi à tirer l'attention de nous, les journalistes, sur notre responsabilité. Mmh. Nous avons un travail délicat, c'est vrai, qui appelle de nous un sens de responsabilité élevé. Vous voyez que d'habitude, l'opinion a tendance à nous défendre. Et il faut qu'on mérite cette sympathie-là. Il ne faut pas qu'on aille au fond de certains dossiers, qu'on se rende compte que nous avons totalement
mal fait. Davantage de professionnalisation de notre secteur.
Il faut qu'on arrive à cela.
Merci Germain. Il est 12h, passé 2 minutes. Nous allons suspendre nos débats ici. Le temps que Thomas fasse un clin d'œil de Canal FM, nos partenaires. Puis les auditeurs pourront entrer en ligne. Nos deux dames invitées d'honneur sont là, Mme Trenou et Mme Katanga, les deux confrères également. Soyez sûrs, personne n'a reçu de convocation de Skrik ici pour fuir.
Pas encore.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, à présent, la parole est à vous sur les deux numéros, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. Nous vous demandons juste de vous limiter aux questions traitées aujourd'hui. Un déjà premier auditeur qui va s'annoncer. Je rappelle que nous avons parlé des célébrations de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme, ici et ailleurs. On a partagé l'expérience de Mme Trenou en tant que cadre de banque à la retraite, ses engagements sociétaux et également son revenu sur la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, c'est monsieur
Bozambo.
Pardon?
Bozambo.
Bozambo.
Bonjour les invités.
Oui, vous écoute.
Ce que moi je vais dire maintenant au Togo, il me semble que pourquoi vous n'invitez pas M. Ferdinand sur votre média. Si vous avez posé question la fois passée, vous n'avez pas répondu comme ça. Et M. Ferdinand, s'il vous plaît, beaucoup de journalistes envient M. Ferdinand. Ce qui est arrivé sur le M. Ferdinand, demain ça peut arriver à n'importe qui. Donc, ce que vous avez dit sur votre chaîne maintenant, je vous félicite tout le monde que vous avez l'encouragé pour taper les forces pour que le Ferdinand rentre dans le pays, que ça honore notre pays. Tous les jours, on dit que les opposants sont fus, les journalistes sont fus, les gens qui sont des réseaux sociaux n'arrivent même pas à arriver dans un pays qu'on dit que nous sommes de la liberté d'expression. Donc, je vous en prie, vous les journalistes, aidez votre frère, notre grand frère, de revenir à bonne due forme, qu'on conduit le Togo à bonne due forme, à bonne forme.
Monsieur Bozambo, c'est nous plutôt la presse qui sommes dans le besoin, c'est vous, nos amis, qui devez nous aider. Ce n'est pas seulement charger nous les journalistes.
Si vous allez aider, au moment que vous avez senti que Ferdinand Haïté n'est plus dans le pays, il faut faire deux jours sans presse, sans journal.
Et si nous faisions deux jours sans presse, sur quels médias vous allez vous informer au jour le jour?
Si vous avez fait comme ça...
Monsieur Bozambo, c'est très facile de donner des leçons. Oui. Hein? Ben, vous n'êtes pas journaliste. Laissez-nous faire notre... Si vous voulez nous aider, aidez-nous. Sinon, laissez-nous nous débrouiller nous-mêmes. Merci beaucoup. Nous passons à l'auditeur suivant. Il est en ligne? Oui, l'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour, sir. Comment ça va?
Ah, Didier.
Oui. Bon, moi, question m'a expliqué, j'ai pas suivi le débat depuis le début, mais question m'a expliqué vers la fin.
Oui.
Vous avez dit, vous êtes fier des Togolais. Moi, je mets un petit démol, moi, je suis pas fier des Togolais. Comment je suis que je peux être fier des Togolais si dans un pays où le script, un code de lit de la gendarmerie pour avoir une convocation à un journaliste, comment être fier dans un pays où la cour des comptes fait des comptes et on demande des justificatifs aux ministres? Ils ne le font pas, ils vont aller convoquer l'Assemblée et cette Assemblée aussi les approuve. Comment être fier d'un Togolais si dans un camp militaire, quand on va tuer le chef corps jusqu'à deux ans après, on n'a pas de suite. Moi, je ne suis pas fier des Togolais. J'ai plusieurs rangs. Des fois, j'accuse le Seigneur. J'accuse même de m'avoir mis dans ce pays. Secondo, je voulais poser une question aux femmes.
Oui.
Je vous souhaite d'abord une bonne fête et puis vous avez fait beaucoup de choses. Je suis à Mme Prénoux. Mais ma question est de savoir, souvent, j'avais posé la question la dernière fois, on ne m'a pas répondu, et la personne m'a appelé la question. Souvent, lorsqu'il y a des grands débats de société dans ce pays, vous femmes qui vous engagent, on ne vous retrouve pas. Je vous donne un exemple. Il y a un article qui avait fait polémique dans ce pays, on a dit qu'il faut être Togolais d'origine, avant d'être président, avant de faire la politique. On ne nous a jamais vu, alors que c'est vous les femmes qui allez peut-être épouser un étranger, et quand l'enfant vient de par nos lois, il est Togolais, mais on l'a interdit ses activités. On ne nous a même pas vu vous brancher. Comment est-ce que vous pouvez être fier d'être femme dans ce pays? Je vous remercie.
Didier?
Ah oui,
ça. Merci pour votre intervention. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est un défi auquel nous sommes confrontés. Mais je peux vous dire que vous aussi, vous êtes très fier d'être Togolais. Parce que vous voyagez de par le monde entier. Mais dès que vous trouvez le temps, vous revenez sur le pays. Et je sens que c'est quand vous êtes Togolais que vous sentez vraiment Didier. Sinon, tous les problèmes posés sont réels. Et c'est justement les défis que nous avons de les relever pour montrer que nous sommes fiers d'être Togolais.
D'autres pensent que le titre français du Togo les appartient, que le Togo appartient à nous tous. Faisons ensemble, faisons la réconciliation dont on nous rabat les yeux. Que ça c'est que ça va de cœur. Que nous tous Togolais, on se retrouve Togolais, on est fiers quand on se voit là. Parfois, il est même, quand on se voit à l'étranger, on est tellement content d'être Togolais, on se voit Kabier, Moba, Kotokoli, il n'y a même pas de distinction. Mais quand on vient dans notre pays, la distinction, la
déception. Merci Didier. Les femmes vont vous répondre dans un moment. Un auditeur, le suivant en ligne, bonjour.
Bonjour Serge.
Oui.
Moi je suis content et j'ai entendu que Ferdinand était là.
Oui, en fait, nous avons appris, il nous a écrit qu'il est en sécurité quelque part.
Oui, je dis.
Oui.
Je suis content que votre confrère est vivant.
Oui.
Concentrons-nous plutôt au nord. Nous ne sommes pas au Cameroun, ne vous inquiétez pas, je suis là. Concentrons-nous au nord pour chasser les djihadistes. Merci.
Monsieur Garo, avec son style particulier. L'auditeur suivant. Ok, en entendant le suivant qui est déjà là. Bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur.
Oui, Mathieu.
Mathieu.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Je salue vos invités sur le plateau.
Oui.
Principalement les dames.
Oui.
Je partage une inquiétude que la majorité des hommes ont.
Mm-hmm.
Elle est laquelle? C'est que quand la femme est épanouie, malheureusement, autour d'elle, il n'y a pas d'épanouissement. Je donne un exemple. Une femme qui a eu de l'emploi, un emploi décent, difficilement, elle se marie à quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Alors que chez l'homme, c'est trop facile de prendre une dame qui ne fait rien.
Mm-hmm.
Mais difficilement encore, elle reçoit les gens de sa famille, de la famille du conjoint, chez elle. Donc, après, on se pose la question, est-ce que l'épanouissement de la femme profite réellement aux familles?
Mm-hmm. Ok. Mathieu, il y a deux dames autour de nous ici, je vais leur passer la parole. L'auditeur suivant, bonjour.
Ouais, ça c'est bonjour.
Oui.
Bon, moi, je voudrais parler de Ferdinand Itela.
Allez-y.
Bon, ça, moi, j'ai vu des films comme ça où les brigands ont pris la personne et ils l'ont torturé, ils l'ont obligé de dire qu'il est en bonne santé et qu'il se trouve en sécurité. Hein.
J'en ai vu aussi.
Ah, voilà, donc, bon, vous les journalistes et tout le monde, même son avocat, il faut qu'on soit méfiant. Mais je sais que Dieu va le protéger.
Amen.
Voilà, soyez bénis, merci.
Merci beaucoup. Et c'est pourquoi nous avons dit tantôt, hein, toutes les bonnes volontés, à commencer par les autorités publiques, il faut que chacun s'emploie hein, à ce qu'on prenne contact avec Ferdinand Haïté, lui donner toutes les garanties, qu'il revienne. S'il y a des bons, on va le faire ici au Togo. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Johannes.
Oui, allez-y.
C'est facile de dire qu'il faut faire confiance aux institutions. Mais on ne va pas demander à des gens qui sont persécutés à chaque fois de faire confiance aux institutions. La confiance, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. La confiance doit provenir de quelque chose. Vaut mieux dire à ces institutions de susciter la confiance. De mériter la confiance. C'est à eux de faire en sorte que la population puisse avoir confiance en eux. Et non de dire à des gens, à chaque fois, qui sont persécutés, de leur dire de faire confiance aveuglément aux institutions. Moi, deuxième point, je n'ai pas très suivi l'intervention de Bozambo, mais j'ai su comprendre qu'il y avait un petit accrochage par rapport à quelque chose qu'il disait et qui, moi, m'a interpellé parce que je suis aussi dans cette logique. Et vous savez, nous, dans ce genre de situation, il y a même eu des situations plus graves contre des journalistes dans ce pays. Mais la solidarité de couloir envers vos confrères, nous, ça ne nous plaît pas. On veut qu'il y ait arrivé un moment par rapport à la gravité de certains faits que cette solidarité sorte des couloirs, mais que ça se fasse jour, pour faire comprendre à nos dirigeants également que c'est arrivé à un point où il faut mettre de l'eau dans leur vin. Voilà. Nous, ce n'est pas pour vous donner des leçons. Ne dites pas que nous voulons vous donner des leçons. Mais si parfois nous disons, parce que nous voyons comment ça se passe dans d'autres pays, il y a la solidarité des journalistes.
Merci, Johannes. Je comprends que nous sommes invités à plus de solidarité agissante. Le dernier auditeur, comme ça, les invités, les personnes interpellées vont répondre. Ok, Madame Katanga, vous avez écouté l'auditeur qui disait que quand une femme est à un certain niveau de responsabilité, et la suite. Qu'avez-vous à lui répondre, Madame Katanga?
Bon, merci. Je crois que l'intervenant a observé des cas et c'est ça qui l'amène à réagir de cette sorte. Et ça, ses propos sont vrais, ne sont pas totalement faux. Parce que nous sommes aussi le produit d'une société, hein, et dans nos sociétés, et c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Mm-hmm. C'est comme ça que nous avons été éduqués. Quand tu n'as pas de bic, on dit « va t'adresser à ton papa ». Donc cette éducation, nous l'avons gardée. Et bon, aujourd'hui, on se retrouve devant des situations bizarres. Voilà, mais je dis c'est des évolutions c'est d'abord une expression de notre culture où la femme, quelle qu'elle soit, la preuve, on appelle toujours madame telle. Voilà, donc on est toujours amené à être sous un homme. Et quand on a avec l'évolution aujourd'hui où nous avons été aux mêmes écoles que les hommes et qu'on occupe certains postes, l'éducation doit prendre en compte tous ces éléments. Mm-hmm. Moi, je me dis, on doit retourner encore à la maison. C'est l'éducation qui doit aujourd'hui amener l'homme et la femme à se soutenir, à vraiment développer la complémentarité.
Voilà.
à développer la complémentarité. Si cette éducation n'est pas à, n'arrive pas, ne joue pas ce rôle, si la famille ne joue pas ce rôle dans l'éducation des enfants, on a toujours ces mauvais clivages. Mais si on arrive à bien éduquer nos enfants pour dire oui, toi une femme, toi un homme, vous êtes complémentaires dans un couple. La préparation au mariage aussi, j'ai dit la préparation au mariage, ça c'est le final, mais vraiment je parle de l'éducation qu'on reçoit à la maison où on dit à la petite fille qu'elle peut faire la même chose que fait son petit frère ou son grand frère. Il doit pouvoir se compléter là où le grand frère ne peut pas faire, parce que ça demande beaucoup plus de finesse pour réussir une activité. Ouais. Mais là où ça demande beaucoup plus de force et que l'homme, le grand frère vient faire, on doit les éduquer dans cette logique.
Merci
pour que dans un ménage,
ouais,
qu'il n'y ait pas de... que quelqu'un ne se sente pas supérieur à l'autre, mais vraiment qu'on sente qu'on est complémentaire, qui qu'on est.
Merci. Voilà.
Si c'est la femme qui a plus de revenus, qu'elle comprenne qu'elle doit soutenir son mari, celui qu'elle a épousé, et pour que qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la paix dans la maison.
Oui, mais parce que il a dit hein, que là où il y a... rapidement, il a dit qu'un homme qui a un bon travail peut épouser une femme qui ne travaille pas.
Il y a aussi
une femme également qui a un bon travail, elle peut épouser un chômeur.
Oui, il y en a.
Il y en a.
Oui, il y en a.
Ok.
Il y en a. Pourquoi vous pensez que...
Nous allons en parler après l'émission, parce que j'ai... Madame Trenou, un auditeur vous a également interpellé qu'on ne sent pas les femmes sur les questions de fond, notamment cette question qui est même d'ordre constitutionnel, où un enfant fait par une femme togolaise à un homme qui n'est pas togolais, ne peut pas exercer certaines charges. Bon, des questions comme ça sur lesquelles on ne sent pas beaucoup les femmes. Madame Trenou.
Oui, j'avoue que je suis étonnée par cette intervention. Il me semble déjà que la question a été évoquée il y a quelques jours.
Oui, oui. Il a même rappelé qu'il n'avait pas eu de réponse. C'est pourquoi il revient quand il vous sert vous deux ici.
Dans l'émission, il aurait fallu peut-être qu'il soit plus précis. Moi, pour ce que j'en sais, et je suis moi-même...
Le micro?
Oui, et je suis peut-être moi-même le prototype de cette question. Après la conférence nationale, l'un des acquis de cette conférence a été le changement de la loi. L'enfant né d'une femme togolaise peut acquérir la nationalité togolaise, alors qu'avant, la nationalité ne s'acquérait que par le père. Et donc, j'avoue que je n'ai jamais senti, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de problème. Enfin, togolais, point barre. Et il a tous les droits. Maintenant, dire que les femmes ne se saisissent pas de tous ces problèmes, c'est un peu faux. Vous avez des associations, par exemple comme le GF2D, hein, qui sont sur le terrain tous les jours, hein, et qui ont à cœur tous ces problèmes d'épanouissement des femmes, de problèmes qui gèrent tous ces problèmes de violence et autres. Donc, les femmes ne sont pas absentes sur le terrain.
Le GFDD, le WIDAP Togo et bien d'autres, hein, mais le débat reste toujours d'actualité. Alors, Germain Thierry, vous avez écouté d'autres auditeurs. Comment faire confiance à un État, à des institutions qui ne le méritent pas? Si je résume un peu leurs préoccupations, et puis encore les journalistes qui sont invités à davantage de solidarité réellement. Thierry, tu prends quoi?
Oui, malheureusement, nous sommes obligés de faire confiance à nos institutions, puisque, comme je l'ai dit, malheureusement, parce que c'est elles qui régentent le fonctionnement de notre pays. Maintenant, ce qui a lieu de faire, c'est de continuer par les sensibiliser, ceux qui animent ces institutions-là, à ne pas trop s'éloigner de leur cahier de charge ou de leur mission pour le bien de nous tous, puisque au-delà de tout, nous avons les meilleurs tests, seulement que on applique ces tests-là
à géométrie variable.
Oui.
Et c'est selon que l'intérêt est en jeu. Donc, c'est les réalités que nous avons dans notre pays. Germain et moi, nous sortons d'une réunion où on disait que bientôt, il y a certains des documents administratifs qui vont aussi être digitalisés. Ça voudrait dire que le Togo cherche toujours à mieux faire les choses. Et malheureusement, sur certains plans, ça marche. Sur d'autres, ça ne marche pas. On va continuer par se parler. On va continuer par attirer l'attention des autorités sur ces manquements. Et je crois que on va arranger les choses.
Merci Germain. Toi, sur la solidarité que certains auditeurs disent ne pas toujours sentir dans le corps de la presse togolaise.
Bon, s'il y a manque de solidarité, c'est à tous les niveaux, hein, c'est pas au niveau de la presse togolaise. Vous savez que pendant la Covid, on a senti un peu de solidarité. Les gens ont contribué. Les gens ont contribué un peu. Mais avant cela, c'est autre chose. On a perdu le sens de la solidarité africaine. Aujourd'hui, même dans les mêmes familles, les gens ne s'entraident pas. Maintenant, demander à des acteurs d'une corporation qui n'ont en commun que le métier, surtout avec les clivages politiques. Moi, j'ai eu la chance, hein, de faire les débuts de la presse togolaise. Et à l'époque, quand Gilles-Christ Olympio était le tout-puissant Gilles-Christ Olympio, quand il arrive à la frontière, on l'accueille pour l'amener chez lui. Mais il y avait certains dans son entourage qui chassaient des journalistes proches du pouvoir, qui n'avaient pas accès au domicile de Gilles-Christ Olympio. Et à l'époque, il y a des journalistes proches de l'opposition qui disaient « Mais si cela ne rentre pas, nous aussi on ne rentre pas. » Et donc, l'entourage de Gilles-Christ Olympio était obligé de laisser les autres journalistes rentrer. Ça n'existe plus depuis plus de 15 ans. Ça n'existe plus dans la corporation. On voit des années, certains sont partis malheureusement, les Olonou, les Lucien Dessou, Guy Mario qui est là aujourd'hui et d'autres. Mais nous, on a appris ça de ces années. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est même le journaliste qui montre aux gens là où se cachent d'autres journalistes pour aller les cueillir. Vous voyez donc, c'est des réalités.
C'est vous qui avez fallu que Fegda soit un lieu sûr avant
donc, on est dans cette situation. C'est de part et d'autre. Hein. Quand vous entendez des journalistes parler d'autres journalistes, vous tombez de nuit, on ne croirait même pas qu'on a en commun la profession. Et nous qui avons eu la chance de vivre ça, on est totalement déçus. Mais après, je pense que c'est la politisation du métier. Les gens se mettent à la place des hommes politiques.
Merci,
prennent des positions. Voilà.
Juste nous rassurer que Ferdinand, c'est d'abord un petit frère. Depuis l'université, nos divers engagements, avant de nous retrouver dans la presse, c'est d'abord un petit frère. Et ça dit tout. Pour le reste, fier d'être Togolais, ne pas fier d'être Togolais.
Oui, mais enfin, rapidement, j'allais reprendre là. Oui. Cette question. Il dit, c'est ce qu'il pense. Moi, je suis fier d'avoir une DG femme qui fait un bon boulot, un Premier ministre femme qui fait un bon boulot, avoir Adebayor, avoir.
Non, c'est
qui...
dire que.
Voilà, donc il y a des motifs réels, les nanavers et tout ça.
C'est vrai, voilà, avoir une convocation du SCRIC et devoir fuir, c'est vrai. La justice à géométrie variable, c'est vrai. Même le désengagement de la voie publique, comment ça se fait? Ce n'est pas toujours bien. Mais est-ce qu'il ne faut pas le dire? Il faut le dire. Et il faut rester ici, le dire, et travailler pour qu'il s'achange. Et je vais finir par la conclusion du roman, Le Mandat. Vous rappelez Le Mandat? Les toutes dernières phrases. Un acteur dit, tout cela changera. Et puis mieux, il dit, hein, nous changerons tout cela. Je voudrais que nous soyons dans cette dynamique, que nous nous approprions la mission de rendre le Togo l'or de l'humanité. L'Ukraine est en guerre, mais les Ukrainiens sont au front. Des pays connaissent des situations beaucoup pires que le Togo, mais les gens sont fiers d'être Togolais. Voilà, que nous soyons à la conclusion de le mandat de Semen Ousmane, nous changerons tout cela. C'est fini pour aujourd'hui, pour la semaine. Très rapidement, avec l'indulgence de la technique, des cartons de fin d'émission, juste pour les deux dames. Madame Katanga,
oui.
En attendant de vous recevoir très très bientôt, oui. Carton pour la fin de cette émission.
pour la célébration des droits de la femme.
Oui. Carton vert à toutes les femmes.
À toutes les femmes.
Et des femmes qui ont bon travail, qui vont se marier à un homme chômeur.
Les petites femmes, les petites
oui,
femmes.
Madame, entre nous.
Pareil, toujours dans le cadre de la commémoration des droits de la femme, je voudrais adresser un carton vert aux Zonta Club de Lomé.
Oui.
Et qui s'occupe beaucoup de tout ce qui concerne le leadership féminin.
Oui.
Et qui, dans ce cadre, organise demain à l'OCDI une conférence débat sur ce thème du monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc, demain après-midi.
Merci. Eh bien, nous les hommes, nous vous décernons toujours un carton vert. Vous êtes nos mamans, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos compagnes, vous êtes nos filles, nos collègues de bureau, nos voisines. Nous vous portons dans notre cœur. Bon week-end et le Club de la Presse. Nous nous retrouvons le lundi prochain, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.
Ciao.